Nzamba.
Nzambira samirana.
Le journal avec
Karine Doussabe.
Vous écoutez la radio Inzamba Agateka Kawe. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Le titre de ce jeudi 8 septembre 2022. Cérémonie de remise de reprise ce jeudi à la primature. Dans ce journal, nous reviendrons sur le passé politique que nombre d'observateurs considèrent comme peu reluisant du nouveau chef du gouvernement, le lieutenant général de police Gervais Ndilakobucha. L'inquiétude monte d'un cran chez les réfugiés burundais du camp de Nduta en Tanzanie. C'est suite à l'annonce ce jeudi de nouvelles mesures de restriction et s'ajoute à une série d'autres mesures prises par les autorités tanzaniennes et qui, selon les réfugiés, viseraient à les contraindre à retourner au Burundi. Les agriculteurs de la commune Gihanga, contraints de contribuer à hauteur de 100 000 francs burundais pour la construction d'un stade, dénoncent ce qu'ils qualifient de vol institutionnalisé. Voilà pour le sommaire.
Suivez les émissions de la radio Inzamba en direct sur le www.inzamba.org.
Remise et reprise l'après-midi de ce jeudi entre le Premier ministre sortant, général de police Alain-Guillaume Wunyoni, et le nouveau Premier ministre, lieutenant général de police Gervais Ndilakobucha. La séance a duré moins d'une heure. Des personnes présentes au bureau du Premier ministre ont constaté une forte réduction de la garde de l'ancien Premier ministre Alain-Guillaume Wunyoni. Le lieutenant général de police Gervais Ndilakobucha prend donc de nouvelles fonctions au sommet du gouvernement. Mais ce n'est pas un secret, l'homme a un passé chargé. Qu'est-ce qu'il a le plus caractérisé? La réponse avec Jean-Marie Ndabashinze.
Ndakugalika, je te tue en français. C'est le surnom que le général Gervais Ndilakobucha porte depuis le temps du maquis. L'homme qui gère désormais la primature burundaise depuis hier a été quelqu'un de l'ombre depuis la première victoire de son parti, CNDD-FDD en 2005. Ses compagnons de lutte l'accusaient d'être un homme bon pour l'exécution des ordres qu'un planificateur. C'est dans cette optique que le général Ndilakobucha a toujours occupé des postes d'adjoint successivement à la police nationale, au Service national de renseignement et à la présidence de la République comme chef de cabinet chargé des questions de police. Fin 2014, 13 généraux ici du maquis au compte de CNDD-FDD, dont Gervais Ndilakobucha adresse une correspondance au président d'alors, feu Pierre Nkurunziza, lui conseilla de carter les généraux Alain-Guillaume Wunyoni et Adolphe Nshimirimana pour le bien de leur parti. Selon nos sources, dans ce groupe de 13 généraux, ils ont remarqué par après qu'Ndilakobucha jouait un jeu double. Pierre Nkurunziza va faire le courage à Gervais Ndilakobucha en 2019 pour qu'il l'aide à imposer Pascal Nyabenda comme son successeur. Mais il essuie un échec face aux généraux hostiles à être dirigés par quelqu'un qui n'a pas fait le maquis. Comme formateur du gouvernement, selon la Constitution, le Premier ministre déchu Alain-Guillaume Wunyoni lui propose d'entrer au gouvernement en juillet 2020 avec un méga ministère. Objectif, lui faire son allié, surtout qu'il reste seul dans ce cercle des généraux après la mort d'Adolphe Nshimirimana et de Pierre Nkurunziza. Fidèle à son comportement de se ranger toujours du côté du plus fort, Gervais Ndilakobucha a trahi Alain-Guillaume Wunyoni et vient d'être nommé à la primature burundaise, un poste dont plus d'un observateur parle qu'il s'agit d'une place qu'il ne mérite pas.
Après ce changement à la tête du gouvernement, la radio Inzamba a tendu le micro aux habitants de différentes localités du pays. Leurs sentiments sont partagés à ce sujet. Certains d'entre eux placent un certain espoir au nouveau Premier ministre, tandis que d'autres estiment que rien ne va changer. On les écoute.
Donc,
Je pense que votre ministre va travailler pour l'intérêt du pays, c'est-à-dire que les difficultés liées à l'économie, manque de carburant ou à l'insécurité alimentaire que prévoit notre pays vont se faire, c'est-à-dire que l'économie du Burundi va encore se relever par rapport à ces dernières années.
J'entendais souvent notre chronomètre de la Marte qu'il y a des membres du gouvernement incapables, fainéants. Nous espérons que quand même, ces limitations vont cesser. Nous espérons que la pénurie du carburant, si la décision des denrées alimentaires, montée des prix des denrées alimentaires, vont être alors à la normale. Nous avons aussi l'espoir que la mésentente qui concerne l'ajustement salarial ou la politique salariale va bientôt mise en place. Si tout cela va se mettre en application, nous verrons alors que le président de la République du Burundi a bien fait en destituant son premier ministre Alain Guillaume Bouyoni.
Déjà quand sur le nouveau ministre qui vient d'être adopté par l'Assemblée nationale, ici un criminel comme Alain Guillaume-Bouyoni qui a commis beaucoup de fautes contre l'humanité depuis 2015. Il a tué beaucoup de patriotes, il y a des sessions à Nétire, il y a Alain Guillaume-Bouyoni et il a causé l'alliance de la Rubrica, il a conduit notre pays sur un bas de ruines.
C'était des habitants qui se sont entretenus avec la radio Inzamba Agathe Kakawe. Toujours à ce sujet, le mouvement Inamahoro des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi fait de son côté remarquer que le pays pourrait recouvrer la paix et la stabilité si le président Evariste Ndayishimiye continue à sévir contre les autorités au comportement indigne. On écoute Marie-Louise Barichako, présidente du mouvement Inamahoro des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi.
Cela faisait quelque temps que le président n'arrêtait pas de se plaindre et d'exprimer son impuissance et son désespoir face aux forces de sabotage qui bloquaient ses actions. Sachant que c'est lui-même qui est à la tête du pays et qui porte la responsabilité première de redresser tout ce qui bloque, les Burundais se décourageaient en l'écoutant. Il vient maintenant de nous rassurer. L'espoir est possible. La mesure vient en effet de montrer à tous ceux qui se croyaient intouchables que nul n'est au-dessus de la loi. Cela montre désormais à tous ceux qui se prenaient pour des tout-puissants que les temps sont révolus. Ceci est très important parce qu'ils sont très nombreux, ceux qui ne pouvaient plus approcher aucun service en espérant être accueillis et ceux qui étaient forcés de payer de l'argent à tort et à travers, sans jamais pouvoir se défendre. Que ce message soit bien entendu, que quiconque ne s'acquitte pas de sa responsabilité et ne met pas en avant l'intérêt de la nation sera révoqué et même puni. Si le président de la République reste sur cette ligne et qu'il l'applique sans aucune distinction, les Burundais sauront qu'enfin le pays est dirigé. Il vient en effet d'ouvrir une nouvelle voie. Si tous ceux qui sont en charge y mettent de la volonté, en mettant toujours en avant l'intérêt majeur, le Burundi reprendra sans tarder le chemin de la paix et de la sécurité.
C'était Marie-Louise Badichakro. Dans un instant, la suite de ce journal.
Inzamba.
On en vient à cette grogne des riziculteurs de la commune Gihanga de la province Bubanza. En cause, la mesure du gouverneur de cette province qui exige le paiement d'une somme de 100 000 francs burundais pour chaque champ de riz lors de cette saison culturelle. Cet argent est destiné à la construction d'un stade moderne à Bubanza. Ces agriculteurs dénoncent ce qu'ils qualifient de vol organisé, surtout qu'ils sont obligés de payer chaque année une somme de 60 000 francs burundais pour chaque champ cultivé. Plus de détails avec Bella Mugisha.
Les lamentations de ces riziculteurs sont fondées sur le fait qu'on leur demande beaucoup d'argent dont la destination n'est pas élucidée. La dernière saison culturelle, ils ont payé 60 000 francs bou pour pouvoir cultiver un champ pendant une période d'une année. Écoutez ce témoignage. La situation est telle que les 60 000 francs par champ de culture devraient être payés la dernière saison culturelle. Ils avaient exigé que personne ne devait cultiver sans payer la somme. Ils nous disaient que cette somme allait être versée dans une coopérative que nous ne connaissons pas. Chaque agriculteur devait payer 60 000 francs chaque année.
La situation s'est empirée pendant cette saison culturelle quand le gouverneur de la province leur a exigé de payer une contribution de 100 000 francs burundais destinée à la construction d'un stade de la province Bubanza. Ils sont déjà informés que celui qui ne s'acquittera de la somme n'aura pas le droit de cultiver son champ. Mais alors, pendant ce temps, des informations circulaient comme quoi le gouverneur aurait exigé que chaque agriculteur paie 100 000 francs chaque année comme contribution de la construction d'un stade de la province Bubanza. On croyait que cela ne pouvait pas être mis en exécution. Malheureusement, pendant cette saison culturelle, on est en train de nous demander de payer les 100 000 francs et que les agriculteurs qui ne paieront pas cet argent n'auront pas le droit de cultiver son champ s'ils ne contribuent pas à la construction du stade. La rédaction de la radio Inzamba a cherché par téléphone Nizigimana Cléophas, gouverneur de la province de Bubanza, pour qu'il puisse s'exprimer par rapport aux lamentations de ses agriculteurs. Il était injoignable.
Le répit pour les réfugiés burundais vivant en Tanzanie n'est pas de sitôt. Les autorités tanzaniennes ont sillonné le camp de Nduta ce jeudi pour annoncer l'interdiction de toute circulation de moto et de vélo à compter de lundi prochain. Une décision qui vient empirer des conditions de vie déjà précaires, comme l'indique ce réfugié qui témoigne au micro de la radio Inzamba.
Un communiqué émanant du bureau du chef du camp interdit dès lundi de circuler à moto ou à vélo, de cultiver à l'extérieur du camp, que dès lundi ça sera un crime. Et ça nous étonne parce que il n'y a pas longtemps, le commissaire des Nations Unies pour les réfugiés était ici et il nous a promis qu'il va t'aider pour nous afin que certaines restrictions soient levées. Mais malheureusement, ça continue à accentuer. Nous demandons à faire de vraiment continuer à plaider pour nous afin que ces pressions cessent. Nous n'avons pas à demander au gouvernement tanzanien parce que nous considérons que nous ne sommes pas des réfugiés, nous sommes des déplacés à l'intérieur du Burundi. Parce que apparemment ce sont des autorités burundaises qui donnent des ordres, des instructions aux autorités d'ici afin que nous soyons maltraités.
Pas de réaction des autorités du camp de Nduta, du moins pour l'instant. Nous avons essayé de joindre par téléphone l'adjoint du représentant des réfugiés dans ce camp, mais en vain. Dernière nouvelle de cette édition, nous sommes le 8 septembre, le monde entier célèbre la journée dédiée à l'alphabétisation. En 2016, le taux d'alphabétisation Burundi était de 68%. Selon Eulalie Nibizi, activiste du droit à l'éducation pour tous, même ceux qui sont alphabétisés ne profitent pas suffisamment des connaissances acquises. Elle propose au gouvernement d'envisager des espaces de valorisation de cette alphabétisation. On l'écoute.
Et je me rends compte que le Burundi ne profite pas suffisamment des avantages de cette célébration, mais aussi des échanges d'expériences et des capacités qui sont accordées par les différents partenaires. Il est vrai, les effectifs des personnes alphabétisées augmentent. Le taux d'alphabétisation dépasse 60% autour de 60, entre 65 et 68%. Mais ce sont des taux variables. Le taux ne suffit pas parce que c'est le nombre de personnes qui sont accédées au banc de l'alphabétisation. Et à cette époque où on parle de l'encouragement de l'éducation, de l'accès universel à l'enseignement de base, l'enseignement fondamental jusqu'à 9 ans, normalement, le taux d'alphabétisation devrait correspondre au taux de scolarisation. Malheureusement, même ceux qui sont alphabétisés ne profitent pas suffisamment des connaissances qui ont été acquises. Qu'est-ce qui manque? Ce qui manque, c'est qu'il manque pratiquement des espaces de valorisation de cette alphabétisation. Les centres d'alphabétisation sont là, mais il leur manque de cadres de suivi. De cadres de suivi qui permettent de voir si les personnes alphabétisées valorisent cette alphabétisation. Si les personnes alphabétisées appliquent effectivement les compétences acquises au niveau de la vie courante, et c'est que au niveau même du Burundi, il n'y a pas d'encouragement de l'écriture et de la lecture, afin que les personnes alphabétisées puissent chaque jour, chaque matin, avoir quelque chose d'intéressant, quelque chose de valorisant à lire et à écrire. En fait, c'est une question de culture. La culture de l'oralité constitue un blocage.
Eulalie Nibizi, activiste du droit à l'éducation pour tous. Fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir.